Parti. Et notre invitée ce matin dans le 8:30, c'est Catherine Albaric-Delpech. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'inspection d'Académie des Hautes-Alpes, la DAZEN, comme on l'appelle. Il y a eu des inquiétudes au début, pendant cet été, en tout cas pour cette rentrée scolaire. Certains disaient que ça va être une rentrée chaotique. On a parlé de contractuels embauchés cet été, de manque de professeurs, de crise de vocation. Dans les Hautes-Alpes, cette rentrée, elle a été chaotique.
Bien écoutez, je dirais qu'elle a été c'est extrêmement bien déroulée. Les inquiétudes qui ont été évoquées au niveau national ne touchent pas le département des Hautes-Alpes. C'est un département très attractif pour les enseignants. Cette inquiétude, nous ne l'avions pas et nous le savions dès le début de l'été. Je crois que ces propos-là concernent beaucoup plus des académies franciliennes, puisque même Aix-Marseille n'a pas eu à souffrir de difficultés de recrutement. S'il y a quelques contractuels qui peuvent être recrutés, mais c'est plutôt pour des gros départements. Dans les Hautes-Alpes, nous n'avons pas de contractuels recrutés cette rentrée. Nos forces couvrent nos besoins.
Comme vous le disiez au micro de notre correspondant Thibaut Durand à Briançon, chaque élève aura trouvé un enseignant pour la rentrée. Et encore mieux, c'est qu'on a aussi une petite marge
Tout à fait.
s'il y a une crise. Donc au final, c'est ce que vous disiez, cette crise, elle est nationale, c'est pas forcément local.
Alors, il faut quand même préciser que souvent l'école, une difficulté qui peut apparaître dans certains territoires est souvent généralisée. Donc, il faut analyser les choses avec un peu plus de subtilité. Dans ce département, mais comme dans l'Académie d'Aix-Marseille, c'est une académie très attractive. Donc, forcément, il y a toujours des ajustements de rentrée. Chaque rentrée, il y a des ajustements. Parce que prévoir en janvier, c'est toujours comme cela que ça se passe, prévoir en janvier les besoins que nous aurons en septembre, c'est une opération qui peut souffrir quelques petits écarts. Mais ce sont des tout petits écarts. Et ces écarts sont traditionnels chaque rentrée. Et nous avons des dispositifs pour les combler. Donc, je voudrais quand même que on puisse modérer ces propos. Voilà, hein, rentrée chaotique, catastrophique. Enfin, j'entendais des propos extrêmement exagérés, et qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, c'est bien de remettre les choses au bon endroit.
Quand on parle de réalité, on parle souvent de chiffres. À partir de quand, selon vous, une classe est surchargée?
Il n'y a pas de. Enfin, on a des repères, hein. Ce n'est pas des seuils, mais on a des repères. Ces repères, ils sont notre boussole, je dirais, pour préparer la rentrée. Donc, il n'y a pas de. On considère en général que les classes de maternelle, d'élémentaire doivent. Dans ce département, on a la chance de pouvoir faire des classes. Au plus à 25, 26 élèves, mais on va rarement au-delà, mais parce qu'on a des taux d'encadrement très favorables. Et cette qualité de l'enseignement fait qu'on a même, bien sûr, c'est aussi pour ça qu'on a un département attractif pour les enseignants, parce qu'on a des conditions très favorables. Mais l'école rurale, et notamment les toutes petites écoles, je dirais, font que, on peut avoir des classes à beaucoup moins que ça, à des classes avec 12, 13 élèves. Mais ça, c'est les territoires ruraux, les toutes petites écoles. Alors, il faut quand même savoir que ce sont des classes souvent multiniveaux, avec une complexité particulière de l'enseignement, du fait qu'on a, je dirais, 2, 3, 4 niveaux. Pour l'enseignant, c'est pas si simple. Donc, il y a une spécificité de ces classes-là. Et ça, il faut aussi que nous puissions y répondre. Et puis, le deuxième enjeu, c'est que nous avons ce maillage d'écoles dans le département. J'ai par exemple un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a 162 communes dans le département, et nous avons au moins une école dans 95 communes. Donc en fait, donc on a 132 écoles dans le département. Donc ça montre bien que nous essayons de maintenir cette densité d'écoles sur le département. En travaillant avec les élus, parce qu'évidemment, c'est à la main des élus, l'ouverture ou la fermeture d'une école. Hein. Mais notre travail à nous, c'est de mettre les moyens qu'il faut pour que cette école rurale vive.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites c'est à la main des élus de fermer ou d'ouvrir les écoles. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est à eux d'avoir une politique attractive dans leur territoire ?
Oui, l'école et le village, c'est une symbiose. C'est voilà. Hein, et souvent les élus me le disent quand il y a une menace d'une école qui va petit à petit se réduire dans le nombre des élèves, il y a effectivement le sentiment que le village va mourir. Et donc ou en tout cas la préscience que finalement cette vitalité rurale est menacée. Il y a donc une très grande sensibilité des élus autour de l'école. Et pas que des élus d'ailleurs, parce que je pense que les concitoyens y sont très attachés. Le bruit de l'école, hein, la sonnerie, les enfants qui jouent à la récréation, tout cela, ça fait partie de l'univers sensible des villages ruraux. Et je crois qu'il faut que nous y soyons attentifs. Et cependant, nous avons une érosion démographique qui est là. Même si peut-être des familles s'installent avec le souhait d'avoir une autre vie, ce phénomène est quand même pas forcément ne change pas la donne en fait, hein, ne change pas la courbe inexorable de l'érosion démographique. Et donc il faut qu'on y travaille.
On a perdu des effectifs. On a perdu des effectifs avant cette rentrée.
Oui, tout à fait. On perd des effectifs chaque année, mais c'est une érosion lente.
Combien ?
Mais c'est une érosion. Alors, nous avons perdu 69 élèves dans le premier degré. Donc sur 10 000 élèves à peu près, ça. Mais chaque année, on perd. Voilà. Et puis, on a perdu autour de 50 élèves dans le second degré. Alors, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est, enfin, pour vous donner une idée peut-être un peu plus évocatrice de cette érosion démographique, on a perdu à peu près 800 élèves depuis les années 2013. Voilà. En revanche, et ça c'est quand même important de le dire, nous avons gagné 15 postes. Donc, et ça c'est le travail aussi d'un ministère, d'un recteur, d'une équipe académique qui ne souhaite pas dévitaliser l'école rurale. Et je crois que ce discours-là est quand même, enfin, c'est pas seulement un discours, c'est des chiffres. Et ces chiffres-là permettent de montrer que autant on peut manifester quand il y a une fermeture de classe, autant on ne peut pas, accuser l'école d'être à l'origine d'une dévitalisation de l'école rurale. C'est quand même, les taux d'encadrement n'ont fait que s'améliorer.
Oui. Voilà. Vous faites référence au maire de Gap, Roger Didier, qui manifeste jeudi dernier, jour de la rentrée scolaire devant l'école Porte-Colombe, qui perd sa 12e classe. Il le disait aussi sur Alpe 1. Ça n'est pas que l'école Porte-Colombe, il y a aussi l'école du Stade. Je ne veux plus que Gap soit une variable d'ajustement. Voilà, ce sont ses propos.
Alors, je ne parlais pas spécifiquement de monsieur le maire de Gap. Je parlais d'une réaction qui est souvent là quand il y a un travail sur la carte scolaire et un projet de fermeture de classe. Bon, les élus, évidemment, viennent défendre leur école. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je dirais que cette manière de ne pas accepter une fermeture de classe est quelque chose qui est, je dirais, logique. C'est de bonne guerre, si je puis dire. Mais en revanche, on ne peut pas, si vous voulez, maintenir ce maillage d'école sans faire des ajustements chaque année. Alors, Quant à une variable d'ajustement que seraient les villes par rapport aux écoles rurales, non. Non, les taux d'encadrement des villes du département sont tout à fait favorables aussi. Voilà. Il ne s'agit pas de dresser les uns contre les autres. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que nous travaillons. Il s'agit d'avoir une forme d'équité, ou en tout cas de viser l'équité départementale, et de ne défavoriser aucun élève. Il ne s'agit pas de défavoriser un maire par rapport à un autre. Ce sont les élèves, ce sont les équipes pédagogiques qui sont derrière. Donc voilà, notre but, c'est de donner des conditions d'égale dignité à tous les élèves du département, qu'ils soient dans le Briançonnais, dans le Gapençais, dans le Buëch.
Oui. Donc cette 12e classe à l'école Porte-Colombe ne rouvrira pas ?
Non.
Non. Non, parce que le maire espérait justement, après sa manifestation d'il y a un an à Romette, que l'inspection académique fasse marche arrière.
Il n'y a aucune raison de faire marche arrière.
Dans les dispositifs qui sont mis en place, il y a eu des ouvertures, notamment l'ouverture d'une classe Ulysse du côté du collège de l'Argentière-l'ABC. Alors finalement, c'est une continuité avec l'école qui avait aussi une classe Ulysse. Est-ce que vous pourriez peut-être réexpliquer brièvement Ulysse, c'est quoi ?
Oui. Nous avons, dans le projet de l'école de la République, l'impérieuse nécessité d'accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers. Tous les élèves qui, finalement, ne trouvent pas forcément leur place dans une classe ordinaire, si je puis dire, avec bien sûr des guillemets, car aucune classe n'est ordinaire. Donc, il s'agit des élèves qui ont un handicap, des élèves qui sont allophones, des élèves qui sont qui ont un profil un peu particulier, des élèves qui ont des projets ou particuliers, ou qui ont, un profil pour lequel il faut que l'école s'adapte. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter, c'est à l'école de s'adapter. C'est le principe même de la loi de 2005. C'est la raison pour laquelle ont été construites, élaborées le principe des ULIS, des unités localisées d'inclusion scolaire, c'est-à-dire des lieux, des espaces avec un professeur formé qui accueille ses enfants avec un handicap et qui va travailler avec l'équipe pédagogique où cet enfant est, de manière à accompagner ses apprentissages, à voir ses besoins et à essayer d'y répondre. Ces ULIS, nous en avons dans de nombreux collèges du département, et nous avons chaque année, nous essayons de répondre aux besoins qui sont dans le territoire. Car si l'élève qui a besoin d'une ULIS n'a pas cette ULIS dans son collège, il doit faire de nombreux kilomètres tous les matins et tous les soirs, et donc ce n'est pas une bonne chose. Donc ce que nous essayons de faire, c'est là aussi l'idée de maillage est importante, c'est-à-dire de répondre sur l'ensemble du territoire à des besoins. Nous avons donc fait cette proposition à l'équipe de l'Argentière, qui l'a acceptée avec joie, et nous avons, dans la continuité de l'Ulysse École, élaborer cette Ulysse Collège. Une Ulysse Collège qui accueille en général peut-être un peu moins d'élèves la première année, mais petit à petit, cette Ulysse se complète. Ensuite, nous avons d'autres dispositifs. Nous avons aussi ce qu'on appelle les UPE2A. Enfin, on a beaucoup de sigles dans notre maison. Donc, c'est les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants, peuvent scolariser des enfants qui sont soit non scolarisés antérieurement, qui arrivent vraiment sans aucune familiarité avec l'école, parce qu'ils arrivent de pays lointains où ils ont connu la guerre, l'exil, et du coup ne peuvent pas avoir été vraiment bien scolarisés, ou des élèves qui ont été scolarisés dans leur pays d'origine et qui n'ont pas du tout la maîtrise du français.
On le sait, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, je ne me trompe pas, 3 ans. Est-ce que par contre, les parents peuvent trouver des dispositifs où avant 3 ans, ils peuvent mettre leurs enfants dans les Hautes-Alpes ? C'est vrai qu'en tant que parent, parfois, on ne trouve pas forcément de réponse.
C'est vrai que... Alors, les TPS, donc encore un sigle, toute petite section, existent maintenant et ont été mises en œuvre pour les enfants avant 3 ans. qui, donc en général de 2 à 3 ans, qui sont en capacité de vivre dans le collectif école, mais qui, ils sont vraiment tout petits. Et pour ces enfants-là, il y a ce qu'on appelle les toutes petites sections, avec des professeurs formés à cet accueil-là, avec des ATSEM formés, donc des personnes qui accueillent les enfants en maternelle et qui, je dirais, prête main forte aux professeurs dans tous les actes quotidiens d'une classe maternelle. Et il y a là, par exemple, nous avions un dispositif à Briançon, à l'école des Artaillots, qu'on n'avait pas ouvert l'année dernière, mais on avait pas fermé la structure. Et là, on a décidé, monsieur le maire de Briançon a vraiment été très à l'écoute sur ce projet et a dit bon ok on y va et nous devrions avoir des dizaines d'enfants à la Toussaint et peut-être un peu plus au cours de l'année. L'idée de cette EPS, c'est de donner un bain de langage, notamment à des enfants qui vivent dans des familles peut-être allophones, ou qui ont envie du collectif, parce que pour certains enfants tout petits, ils ont plus envie d'être avec des camarades que rester à la maison, où ils peuvent se sentir parfois un petit peu seuls. Donc il y a là un apprentissage de la collectivité, un apprentissage des règles de l'école tout en douceur, et puis surtout l'idée du bain de langage qui va, on le sait, cet âge-là est extrêmement dans cet âge-là, les enfants apprennent des centaines de mots par jour, ils sont extrêmement sensibles à leur environnement, et il y a un gain de temps sur les apprentissages qui est manifeste pour ces enfants. Et donc, bien sûr, les TPS, c'est une formidable opportunité.
Une formidable opportunité aussi pour les maires de conserver leurs écoles et aussi de conserver les effectifs, aussi de conserver les familles.
Tout à fait. Mais la difficulté qu'on peut avoir pour c'est peut-être il peut y avoir des familles où on considère qu'ils sont un peu petits pour entrer à l'école, donc il y a un peu de résistance. Il n'y a pas vraiment de résistance, mais en tout cas quand on peut mettre en confiance les familles sur ce dispositif, c'est très très épanouissant pour tout le monde.
Catherine Albaric Delpech, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait une grande concertation autour de l'école. Il place l'école comme l'une de ses priorités pour son mandat. On sait que sous Jean-Michel Blanquer, il y a eu énormément de réformes. Aujourd'hui, est-ce que ces réformes, elles sont digérées, acceptées et mises en place correctement? Et quelles sont les priorités qu'on vous donne, vous aussi, pour cette rentrée?
Alors, nous avons des réformes qui ont touché pour une grande partie l'école maternelle, l'école élémentaire et le lycée, mais aussi Parcoursup. Enfin, je ne pourrais pas être exhaustive sur l'ensemble des mesures qui ont été prises dans les 5 dernières années et qui se sont mises en place dans un contexte sanitaire que vous connaissez bien. Donc, il y a eu un très gros effort des communautés éducatives, des équipes de direction et de tout le corps enseignant pour que ces réformes puissent se mettre en place dans des conditions qui n'ont pas été simples. Aujourd'hui, oui, elles sont, que ce soit la réforme de l'instruction obligatoire à 3 ans, que ce soit la question des évaluations nationales, il y a un travail colossal qui a été mené. Mais des chantiers existent encore. Et cette rentrée, nous allons travailler, par exemple, autour de la mise en place d'une grande consultation. Alors, évidemment, là, nous sommes sur la rentrée. Dans les quelques jours qui sont là, on se focalise sur la rentrée. Mais ensuite, nous allons pouvoir mettre en œuvre une consultation qui permettra de faire émerger des écoles, des collèges, des lycées, des projets plus appropriés aux enjeux territoriaux, aux enjeux aux enjeux qui s'adaptent à une réalité locale. Cette volonté de Monsieur le Président de la République est extrêmement importante et il va falloir que nous puissions mettre en œuvre les modalités correctes de consultation pour que ces projets émergent, parce que les équipes ont beaucoup de choses à proposer et parce qu'il y a une envie aussi de s'emparer de leviers locaux. Aussi. Alors ça, c'est un premier point. Il y a aussi des enjeux autour de la transformation de la voie professionnelle. Il y a eu une réforme de la transformation de la voie professionnelle et ce n'est pas terminé. Madame la ministre déléguée a annoncé également un ensemble de consultations autour de la transformation de la voie professionnelle, car le lycée professionnel, c'est un lieu qui forme avec des projets d'excellence, mais qui a encore une image qui n'est pas juste, je dirais.
Ça n'est pas une voie de garage.
Ah ben, certainement pas.
Parce que c'est souvent ce qui a été dit, justement.
Oui, mais ça, c'est une image d'avant. Le lycée professionnel est un lycée d'excellence, avec un bac qui donne aux jeunes la possibilité de poursuivre leurs études. Et on voit de très nombreux élèves qui veulent poursuivre leurs études. L'idée c'est aussi de travailler vers une meilleure articulation avec l'apprentissage, qui doit être encore développé. Et il y a des choses à aller voir, parce que ce n'est pas si simple, la mixité des publics. Ce qu'on appelle la mixité des publics, c'est la construction, je dirais, de parcours d'apprentissage à côté de parcours scolaires dans la même classe. Et ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Il y a ça, hein, et puis il y a aussi la question de l'adaptation. Faut-il que le lycée professionnel soit constamment à s'adapter, je dirais, avec une très très grande réactivité aux besoins des marchés de l'emploi? Comment on travaille cette articulation avec les besoins du marché de l'emploi? On sait bien qu'aujourd'hui, il y a des difficultés de recrutement dans de nombreuses branches d'activité et il y a donc une nécessité d'une meilleure articulation. Mais cela est très complexe. Et ce sont des questions qui ne se mettent pas, on ne fait pas ça, on ne règle pas ça en deux réunions. Ça demande beaucoup de temps. Et Madame la ministre déléguée a décidé aussi, a demandé aussi aux proviseurs de lycées professionnels, de lycées des métiers, de travailler avec elle pour construire cela ensemble.
C'est tout bon. Merci beaucoup Catherine Abarek-Delpech d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'inspection académique des Hautes-Alpes. Merci.
Merci.